Hélà Raberto et Guillaume Blanc, bonjour. On est très contents de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Mola de Bordeaux pour présenter et vous écouter parler de vos deux derniers livres. Donc, Conakry, une utopie panafricaine, récit et contre-récit, 1958-1984, d'Hélà Raberto, et Empire, une histoire sociale de l'environnement, de Guillaume Blanc. Il s'agit d'une anthologie de textes qu'il a dirigée avec Antonin Plarié. Juste deux mots pour vous présenter. Donc, Hélà Raberto, vous êtes chargée des recherches en littérature au CNRS, affiliée au laboratoire Les Afriques dans le Monde. Cette monographie que vous nous présentez aujourd'hui est tirée de votre habilitation à diriger des recherches, qu'un jargon universitaire signifie que vous pouvez maintenant diriger vous aussi des thèses. Vous avez beaucoup travaillé sur le rapport entre littérature et histoire, histoire et mémoire, on y reviendra tout à l'heure. Et dans les dernières années, vous avez publié plusieurs livres, je reviendrai sur deux en particulier. Un couple panafricain, Myriam Makeba et Stokely Carmichael, pardon. Paru en 2025 aux éditions Robocrique et une biographie de Senghor sortie aux Presses universitaires de France en 2023. Guillaume Blanc, vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux, affilié vous aussi au laboratoire Les Afriques dans le Monde. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire environnementale et tout particulièrement sur la gouvernance globale de l'environnement et des hommes à partir des cas de l'Éthiopie et de l'Afrique de l'Est, même si vos livres ont aussi brossé des portraits plus larges à partir de tout le continent. Et vous avez publié aussi plusieurs livres. Je reviendrai sur les deux derniers. La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique, publié à La Découverte en 2024. Et La nature de l'historien, par les hauts, par les bas, publié aussi au CNRS Éditions en 2025. Donc aujourd'hui, nous avons discuté de vos deux livres qui sont, il faut le dire, quand même deux objets très différents. On a affaire avec une monographie des 318 pages produite par Hélà Raberto et avec une anthologie des textes. Donc la discussion aujourd'hui visera à tracer des discussions communes entre les deux ouvrages, des points méthodologiques, historiographiques communs qui permettent de rapprocher ces deux ouvrages. Juste pour en dire un mot et présenter les deux objets qui sont les deux très beaux et très pédagogiques. Donc, Conakry, une utopie panafricaine, structurée en 8 chapitres. Et à travers ces 8 chapitres, Hélà Raberto raconte l'État guinéen de Sékou Touré après l'indépendance, en 1958, et montre comment Sékou Touré monte une machine narrative pour faire de la Guinée et des Conakry une utopie panafricaine, mais aussi anticoloniale. Et vous nous montrez d'un côté, dans la première partie de l'ouvrage, toute cette machine des productions narratives de l'État, mais dans la deuxième partie de l'ouvrage, vous nous parlez aussi des contre-récits et donc de comment cette utopie, au final, laisse de la place à des répressions sanglantes, surtout à partir des 61, et vous nous montrez par des archives tout à fait inédites, on va y revenir tout à l'heure, comment aussi on peut écrire contre le pouvoir dans ce contexte. Et c'est un ouvrage, bon, vous êtes littéraire, on y reviendra, mais c'est vraiment un ouvrage très utile aussi pour tout historien et historienne qui veut se familiariser avec des méthodes de travail sur des sources très variées, sources privées, mais aussi sources étatiques. Et c'est un ouvrage qui se lit, qui se dévore comme un roman. Que je vous conseille vraiment à tout spécialiste d'histoire de l'Afrique, quoi, tout intéressé aussi des rapports entre histoire, mémoire, histoire et politique, et à la manière dont on peut utiliser des sources très différentes pour mener une enquête historique. Guillaume Blanc, votre anthologie des textes s'est divise en quatre parties. Neuf textes inédits, donc ce sont des textes pionniers de l'histoire de l'environnement qui nous permettent aussi de revenir sur le rapport entre histoire de l'environnement, histoire des hommes, histoire sociale. Et c'est un livre qui est, je considère, très pédagogique parce que vous nous accompagnez en fait dans la lecture de ces textes qui ont été publiés par d'autres scientifiques, donc des géographes, des historiens, des anthropologues, des ségologues. Et vous nous aidez vraiment à saisir les questions phares de la discipline et vous nous accompagnez aussi dans les évolutions de la discipline. Donc c'est un livre qui est vraiment très utile pour tous les historiens, mais aussi tous les étudiants et étudiantes qui veulent s'approcher à l'histoire de l'environnement et suivre l'évolution de la discipline depuis les années 80 jusqu'aux années 2010. Bon, maintenant, je vous passe la parole et j'aimerais commencer avec une question très simple. Donc, quels sont les projets qui vous ont amené à écrire ces livres? Quelle est l'idée derrière ces livres et pourquoi ces deux livres?
Merci beaucoup pour cette introduction très belle. Donc, ce que je voulais, à travers l'histoire de Conakry, c'est raconter une indépendance très particulière, puisque Sékou Touré s'oppose à De Gaulle en 58 et il mène une politique culturelle extrêmement remarquée dans toute la sous-région à partir de 1958, qui va impressionner par exemple quelqu'un comme Frantz Fanon avec une idée de décoloniser les imaginaires, décoloniser la culture et produire des textes de théâtre partout en Guinée, qu'il soit en Soussou, en Maninka, en Poulard. Et donc, ça va donner à Fanon, par exemple, cette idée d'aliénation linguistique et de nécessité de se désaliéner par la culture et par la langue. Et Sékou Touré va le faire. Et ça va avoir une aura, une répercussion dans la musique, dans le théâtre, dans la poésie, absolument exceptionnelle en Guinée. Mais aussi, on écoutera la musique guinéenne au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc, ce que je voulais raconter, c'est bien sûr une histoire de Conakry, mais plus largement, l'histoire d'une utopie formidable qui a eu un impact culturel absolument incroyable, qui a bien sûr dépassé les frontières guinéennes. Et puis, je me suis mise à la recherche de ces textes. Donc, on me parlait beaucoup de ces pièces de théâtre, mais elles n'avaient pas été éditées. Et donc, j'ai enquêté avec en partie les archives institutionnelles. J'ai travaillé avec la directrice du journal d'État, notamment. Mais je me suis mise aussi en quête de ces fameux textes de théâtre qu'on pensait avoir disparu et qu'on n'avait jamais vraiment étudié. Par exemple, dans les grandes anthologies de théâtre, African Theatre in Africa, par exemple, il n'y a que quelques petits paragraphes disant de toute façon, c'est de la littérature de propagande, ça n'a pas vraiment marché, c'est pas vraiment du théâtre. Or, si c'était du théâtre, les gens ont adoré ça. Et les textes existent, simplement, ils n'ont pas été édités, donc ils sont conservés dans des familles, des anciens acteurs, des anciennes personnes qui avaient assisté à ces textes, et puis qui en avait fait des retranscriptions, ou alors dans les annales de linguistique à Conakry, certains devoirs d'étudiants étaient de retranscrire certaines de ces pièces. Donc je me suis mise à être très impressionnée en fait par ce régime de Sékou Touré qui prenait la révolution socialiste, la révolution panafricaine, l'antiracisme, l'anticolonialisme. Et très profondément, l'indépendance du continent. Par exemple, il y a des pièces sur Amilcar Cabral et le combat de la Guinée-Bissau. Il y a des pièces sur Soweto et l'apartheid en Afrique du Sud. Et toute cette politique panafricaine, on peut la suivre dans les textes en se mettant à l'écoute de ces archives donc, qui n'ont pas été éditées à l'époque. Et puis, ce que je voulais raconter également, puisque on est toujours confronté face à Sékou Touré, à cette question, est-ce que vous êtes pour ou contre Sékou Touré? Et ça ne m'intéressait pas trop en tant que chercheuse de répondre à cette question. Ce que je voudrais donner à lire, c'est à la fois toute la richesse de cette production culturelle et en même temps l'envers du décor. C'est le sens du sous-titre qui est « Récit et contre-récit », c'est-à-dire aller voir dans d'autres familles, d'autres types de mémoires, puisque la Guinée de Sékou Touré, c'est environ 50 000 morts de la répression politique dans le camp Boiro et d'autres camps partout en Guinée. Et les personnes qui ont été incarcérées ou les veuves ont écrit des textes pour raconter au jour le jour ou après coup les mémoires de la répression politique. Donc, de la même manière, tous n'ont pas été édités. Certains sont sur des feuilles gardées chez soi. Certains sont des poèmes écrits au recto ou au verso de certains autres textes qui racontent autre chose. Et ces mémoires-là sont également une partie de l'envers du décor qui raconte parfois que ces personnes-là tenaient tout autant que ses coutourées à l'idéal socialiste, simplement par d'autres moyens ou en condamnant la politique menée par ses coutourées. Donc ce que je voudrais essayer de faire dans ces 8 chapitres que vous avez évoqués, c'est vous donner à vous, lecteurs, les moyens de comprendre tout à la fois l'utopie panafricaine dans sa richesse et telle qu'elle a été célébrée à l'époque, puisque des intellectuels du monde entier sont venus se mettre à l'écoute de ce régime-là, et dans le même temps, vous donner les moyens de comprendre également tout un autre versant d'archives conservées par Deversoy qui raconte la violence politique au quotidien.
Merci beaucoup. Je vais essayer de prendre la suite. Donc, on l'a dit, oui, sur des sujets un peu différents de prime abord. Donc, nous, l'ouvrage, cet ouvrage Empire, une histoire sociale de l'environnement, bah, le projet est plutôt né d'abord d'une rencontre intellectuelle avec Antonin Plarier. Et puis, comme bien souvent, une rencontre intellectuelle qui devient une rencontre amicale. Et du coup, on lance des projets où on se dit que ça vaut le coup de passer ses week-ends à bosser dessus parce que c'est entre amis. Et en vrai, c'est que Antonin Plarier, lui, vient de l'histoire sociale. D'abord, il a travaillé sur les bandits algériens face au pouvoir colonial et donc presque exclusivement dans les, pas exclusivement, mais majoritairement, dans les forêts et dans les marges un peu rurales de l'Algérie. Et puis moi, au contraire, qui a plutôt une formation en histoire environnementale, qui travaillait, comme vous l'avez dit, sur le gouvernement de la nature et des hommes. Et puis à force d'échanger l'un et l'autre, on s'est aperçu que, en fait, moi, je faisais autant d'histoire environnementale que d'histoire sociale, et que lui faisait autant d'histoire sociale que de l'histoire environnementale. Mais que ce croisement méritait d'être vraiment interrogé. Et bien sûr, d'autres l'ont fait avant nous. Bon, par exemple, Carl Jacobi, un grand historien de l'environnement. Et on s'est demandé, avec Antonin Plarier, de se dire, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'étudiants à l'université. Donc, lui, il est maître de conférence à l'université Lyon 3. Et on s'est dit, on n'a pas beaucoup d'étudiants qui veulent travailler sur l'histoire environnementale de l'Empire français. On s'est dit, alors que pourtant, on a des sources, des archives disponibles en France. Et on s'est dit, eh bien oui, mais il faudrait peut-être déjà pour ça, quand même, qu'il y ait des textes plus accessibles sur cette histoire sociale et environnementale. Et alors bien sûr, qu'en doctorat, on va les lire ou après, mais on s'est dit que ça serait bien quand même de rendre accessibles des textes donc comme les chercheurs indiens de Ramachandra Guha, Madhav Gadgil, ou une chercheuse indienne, Jayeta Sharma, qui maintenant enseigne au Canada. On s'est dit, mais en fait, nous, on les a lus. Pour nous, ce sont des textes pionniers, fondateurs, sur qu'est-ce que les empires font à l'environnement lorsqu'ils conquièrent des territoires, mais qu'est-ce que l'environnement fait aussi à ces empires. Et donc, voilà, s'en sont suivis 2-3 années de travail, d'abord en sélectionnant des textes. Et on a essayé donc de montrer, donc en 4 parties, comme vous l'avez dit, où on a d'abord commencé par vouloir insister, et je crois que c'est là où nos deux ouvrages en fait se rapprochent, d'abord de prendre les empires au sérieux. Au sens où, oui, les empires, comme là, Sékou Touré, oui, ce sont des machines à produire des discours. Mais avant de déconstruire ces discours, d'abord prendre ces discours au sérieux. Et bon, je vous donne peut-être 2 exemples pour illustrer cela. D'abord, dans la première partie du livre sur l'ordre écologique et impérial, eh bien, on a un texte de William Adams sur l'esprit colonial de la nature. Et en fait, il explique à quel point cet esprit ne doit pas être minimisé ou renvoyé comme un détail. Non. Quand il explique le mythe de la dégradation de l'environnement en Amérique du Nord au 18e, 19e siècle, et puis en Afrique et en Asie colonisées fin 19e, début 20e, eh bien, Adams nous décortique par le menu comment est-ce que, d'une petite enquête en Afrique du Sud, menée par 2 chercheurs spécialisés en sciences du sol, sur un petit terrain de l'Afrique du Sud, où ils ont expliquer que 30% du sol était érodé dans ce petit territoire, eh bien comment ils en ont fait un ouvrage qui s'appelle « The Rape of the Earth », le viol de la Terre, et qui nous décrit la dégradation de tout le continent africain dans les années 30 et une immense désertification qui toucherait tout le continent. Eh bien, oui, ce récit est faux, mais c'est pas pour ça qu'il va pas être pris au sérieux, qu'il va pas créer toute, comme l'a dit Ella Raberto et comme vous l'avez dit, toute une machine narrative qui va nous créer un discours qui va être à la base, oui, de politique, mais aussi d'une véritable angoisse coloniale. Angoisse, on est dans les années 30, il vient d'avoir le Dust Bowl aux États-Unis, donc c'est une tempête de sable dans les grandes plaines états-uniennes qui nous vaudront Steinbeck, les raisins de la colère, comment en fait on a tous ces migrants climatiques qui vont fuir des zones désertées parce que saccagées par le capitalisme intensif, et bien comment cette peur vient des États-Unis jusqu'en Afrique soutenir toute une machinerie narrative. Et puis en fait, on peut aller plus loin. On a, et là c'est un autre historien, Bernard Guissibel, qu'on a mis dans l'ouvrage, où on a traduit son article au titre assez énigmatique, « Une guerre pour protéger la chasse ». Bon, on y reviendra sur les moments d'insurrection, je pense, mais qu'est-ce qu'il nous explique d'abord ? Il nous prend un chasseur administrateur allemand en 1904, qui est appelé, soi-disant, pour sauver les populations autochtones d'un éléphant baptisé Mangula qui massacre le village. Ce chasseur, Von Hassel, tue l'éléphant et ensuite une légende se développe, celle d'un colonial et d'un colonialisme qui serait venu sauver des Africains démunis face à leur propre environnement. Et c'est comme ça que le colonialisme va devenir un soin prédateur. Donc, cette machinerie narrative, et je pense que c'est là où nos travaux se rencontrent avec Elara Berthaud, eh bien, c'est d'abord de prendre cette machinerie narrative au sérieux avant de déconstruire et de voir comment les populations vont réagir. Mais de la même manière qu'on ne peut pas analyser le régime de Sékou Touré sans d'abord penser que beaucoup ont cru à cette utopie panafricaine. Et alors, Sékou Touré, là, je ne peux pas parler à la place d'Elara Berthaud, mais il faut d'abord se dire, prenons-les au sérieux et voyons ensuite quelle réalité sociale va s'en suivre. Et c'est comme ça qu'on peut décortiquer, me semble-t-il, l'histoire impériale ou l'histoire post-coloniale.
Et dans les deux livres, justement, il s'agit des récits, des contre-récits que vous présentez à travers un kaléidoscope des sources primaires très différentes. Et vous arrivez vraiment à tisser des récits autour des sources qui sont variées, très différentes. La manière de les analyser aussi est différente. Donc, je voudrais vous entendre développer sur ces sources. Donc, comment on travaille sur un corpus des sources si éclaté et comment on arrive à tisser un récit homogène à partir de ces textes très différents. Et ce que les deux ouvrages font, c'est vraiment de nous aider à penser avec les sources. Les sources sont au centre de vos argumentaires. On retrouve, dans le cas de Elara Berthaud notamment, des retranscriptions importantes des sources. Donc voilà, je veux vous entendre un peu développer sur ce point. Et là, Guillaume Blanc, peut-être
Oui, je peux répondre à ça, effectivement. Vous avez raison, je voulais donner à entendre ces sources. Et donc, vous venez de dire qu'il y avait des transcriptions importantes. Et ce qui était important pour moi à la lecture, c'est qu'on entende ces voix. C'est des archives qui ont été silenciées. C'est des archives qu'on a considérées comme perdues pendant longtemps. Il faut dire que les milices du Parti démocratique de Guinée avaient l'habitude, lorsque un prisonnier politique était pris dans sa famille, de brûler une partie des papiers. Donc ces archives ont vaincu le feu. Elles ont vaincu, elles ont été cachées, elles ont été sorties de Guinée. Pour le cas des archives du régime, elles ont été éparpillées. Donc ces archives qu'on a à voir, en quelque sorte, elles sont pauvres, parcellaires, fragmentaires, et je voulais les donner à lire dans cet état-là également, pour en montrer toute la densité conservée. Alors ensuite, ces sources, elles ont des statuts très différents. J'ai travaillé dans des familles comme celui de l'historien Djibril Tamsirniane, qui a été un historien de l'UNESCO, celui qui a participé à l'histoire générale de l'Afrique, celui qui a écrit Sundiata en 1960, qui est devenu un des best-sellers d'Afrique de l'Ouest. Lui conserve dans sa maison et dans l'annexe de sa maison 300 cartons à Conakry. Il a également été l'un des éditeurs indépendants à la suite du régime de Sékou Touré. Il a reçu des manuscrits de toute la Guinée, de Côte d'Ivoire, au-delà. Donc, c'est une archive gigogne qui contient d'autres archives. Donc là, ça, c'est des types d'archives qui sont exceptionnelles. C'est un patrimoine vraiment exceptionnel. Mais j'ai aussi travaillé avec des personnes qui ont un document, mais qui, par ailleurs, est fascinant. C'est un des acteurs qui a participé au festival panafricain de Lagos en 1977 et qui a gardé le texte chez lui et qui reste avec des sentiments très mitigés par rapport au régime, à la fois très, très conscient de la violence politique du régime et en même temps conservant une grande fierté d'avoir appartenu à cette tournée internationale et d'avoir représenté la Guinée à l'international dans ces festivals panafricains. Donc, vous voyez, 300 cartons d'un côté, un seul texte de l'autre. Et mon idée, à chaque fois, c'est de les donner à lire, donner à montrer leur richesse faire un récit à partir de l'hétéroclite. Vous avez raison, mon enquête au démarrage n'exclut aucune source a priori. Je ratisse très large pour essayer de donner à lire la machine narrative panafricaine antiraciste dans son extension maximale, c'est-à-dire que l'État avait mis en place non seulement des concours annuels, des festivals culturels de la jeunesse, mais également chaque semaine de la poésie d'État qui était passée à la radio et télévision de Guinée, très célèbre à l'époque, qui avait des très très gros émetteurs et qui émettait dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et en musique, ce patrimoine était également porté par des groupes de musique extrêmement importants. Et dans les journaux, donc il y a une comme ça une machine narrative extrêmement puissante, extrêmement bien huilée, et de l'autre côté des archives beaucoup plus ténues. Et donc cette hétéroclite, je fais le pari qu'il fait récit dans la manière de raconter ce moment politique commun. Car j'ai rencontré des familles qui n'avaient rien à voir entre elles. Des familles qui continuent de soutenir la mémoire du régime, dans ce qu'elle peut avoir d'encore pertinent dans l'antiracisme et dans l'anti-impérialisme, car malheureusement, il y a encore des échos contemporains dans l'empire continué d'une certaine France-Afrique. Et donc, ces gens-là continuent de porter une mémoire anticapitaliste et anti-impérialiste très forte et très chevillée, enfin vraiment serrée sur ces textes-là, et d'autres qui sont beaucoup plus critiques en tant que famille de victimes. Et ce que je voulais pouvoir rendre compte, c'est que ce temps politique a été un temps violent. Les années 60, les années 70, avec une violence postcoloniale de la France à l'égard de la Guinée, avec un enfermement diplomatique très violent, mené par Focard et l'ensemble d'une France-Afrique en construction. Et la Guinée, en retour, a été très violente également à l'égard de plusieurs opposants désignés comme ennemis de la nation, inauthentiques. Et donc, ce temps violent, il fracture les mémoires. Or, ces textes-là, ils donnent à lire des mémoires fragmentées, des mémoires clivées, parfois au sein d'une même trajectoire. Des gens qui ont pu collaborer avec le régime et qui ensuite sont devenus des exilés politiques. Parfois à l'intérieur de familles qui ne tiennent pas les mêmes discours sur le régime. Et bien sûr, à l'échelle de la nation, les mémoires Peul ne sont pas du tout les mêmes mémoires que les mémoires Soussous de Conakry. Donc, ce que je voulais pouvoir expliquer à partir de cet hétéroclite, c'est que toutes ces personnes ont vécu dans le même temps politique. Et que ce temps politique, il est fait de la concordance de ce kaléidoscope qui, bien sûr, est pluriel. Et il faut l'affronter en tant que tel, je pense.
Bah écoutez, je n'aurais pas meilleure expression, effectivement, que celle d'Ella Raberto. C'est, voilà, nous aussi, c'est ce que... Alors là, moi, je ne vais pas m'attribuer les lauriers du tout de cette entreprise. Disons que les textes que nous avons sélectionnés, des chercheuses, chercheurs qui les ont rédigés, c'est effectivement pour restituer toute la pluralité de ce qu'étaient les sociétés coloniales, eh bien, ça passe par la pluralité des archives. Alors, leur diversité, en effet, où on peut autant mobiliser... Bernard Gissibel, lui, a mobilisé le compte des d'ivoire vendu en Afrique de l'Est. D'autres se sont intéressés aux plants de thé, d'autres aux figuiers de Barbarie. Mais au-delà de cette diversité des sources, il y a aussi la diversité des lectures des sources. Là est le texte, alors c'est le texte le plus ancien que l'on a mis dans cette anthologie, mais qui nous semblait tellement fondamental, celui de Ramachandra Guha et Madhav Gadgil. Donc, c'est un espèce d'état de l'art sur la foresterie, on va dire les sociétés forestières et rurale dans l'Inde britannique. Et en fait, il nous parle alors soit des sociétés de forgerons, soit d'agropasteurs, soit de ce qu'ils allaient appeler les peuples de la forêt, mais c'est-à-dire qui vivaient en autosubsistance, et comment l'irruption coloniale a tout bouleversé. Et Ramachandra Guha et Madhav Gadgil mobilisent les sources d'abord de manière classique. Ils vont voir, par exemple, les lois britanniques. Eh bien, on voit comment la Grande-Bretagne a d'abord exproprié les populations rurales, comment ils ont monopolisé les ressources forestières en créant un service forestier, puis des branches scientifiques, puis des gardes, puis de la gestion. Bon, prennent ces mêmes archives, imposition du pouvoir colonial. Et puis, mais eux, c'est dès 1989 quand même qui montrent ça, donc vraiment pionniers dans cette manière qui est devenue commune pour nous, historiennes, historiens de l'Afrique, eh bien, ils vont montrer, d'accord, on a 150 amendes, peines de prison qui sont déclarées cette année-là. Puis l'année suivante, on en a 450 peines de prison, amendes. Première manière de voir la chose, l'État britannique s'impose dans les forêts. Ou deuxième manière de voir la chose, l'archive à rebours, comme Anne-Laura Stoller, eh bien, ça veut peut-être dire qu'en fait, les révoltes et que les insurrections paysannes sont peut-être de plus en plus nombreuses. Et donc, ils ont relu tout ça à l'envers pour voir d'abord le rôle des élites intermédiaires de la colonisation. Donc, ils nous montrent des états princiers et des familles, on va dire de la noblesse, entre guillemets, princière de différents états en Inde, comment ils sont tantôt alliés au pouvoir colonial pour s'imposer sur des territoires qu'ils peinaient à contrôler et partager avec les Britanniques, même si c'est de manière inégale, bien entendu, les fruits de l'exploitation des forêts. Mais comment tantôt ils vont aussi s'allier avec la paysannerie et des représentants de communautés locales pour faire front commun face aux Britanniques. Et donc là, en fait, ce que nous montre Ramachandra Guha, Madhav Gadgil, c'est tout simplement que l'ordre colonial est toujours perturbé. Et là, l'environnement nous montre, c'est à la fois un objet d'étude, on étudie le rapport aux forêts, l'exploitation, mais c'est aussi un mode d'étude. Par l'environnement, on relie toute la fragilité de l'ordre colonial, toute sa violence, bien entendu, mais aussi sa fragilité, où, bon, c'est le grande phrase de Georges Balandier, que la situation coloniale, c'est un état de crise caractérisé. Mais là, on va le voir sur l'environnement et grâce aux sources. Et après, dans l'ouvrage, on a essayé de multiplier les entrées. Par exemple, l'anthropologue Lynn Schumacher, donc une collègue qui est malheureusement décédée il y a quelques années de cela, et elle a mené une enquête vraiment formidable dans la Copper Belt zambienne, donc l'ex-Rhodésie du Nord, et donc c'est toute cette zone d'exploitation du cuivre. Et elle va nous montrer, à travers des récits qu'elle a collectés en Zambie auprès d'ouvriers de la mine, mais aussi des institutions dirigeantes, donc britanniques, et puis après d'autres. Et en fait, à travers des récits, on pourrait s'attendre à ce qu'on ait un récit d'histoire environnementale du travail. Alors, des mineurs très exploités, durement, dans des conditions effroyables, et de la mortalité, certes. Et des patrons et un grand patronat qui sont des hommes connectés à l'Empire, à la métropole, mais qui sont aussi sur place dans des négociations, certes. Mais elle nous montre qu'on a une toute autre histoire d'embosse et de boue dans cette Copper Belt zambienne. Et elle a récolté les récits donc d'ouvriers, de mineurs, qui là mettent en scène des récits de serpents, des récits d'animaux, d'humains, non-humains, qui en fait vont être responsables de ce chamboulement du rapport à la terre et donc d'une punition qui s'abattrait sur les hommes. Voilà comment beaucoup d'ouvriers, de communautés, de travailleurs, de mineurs vont lire les bouleversements sociaux, environnementaux. Et inversement, le grand patronat de cette exploitation minière vont, eux, développer un récit de sauvetage mi-politique, mi-divin, de sauvetage de cette société bouleversée. Et donc, en fait, ce qu'elle nous montre, c'est que l'ordre colonial et la société coloniale est tout sauf celle que l'on croit. Et elle nous redonne à lire, et c'est pour ça qu'on a essayé, on a voulu vraiment traduire ce texte, elle nous redonne à lire toute la complexité d'une société coloniale qui échappe au grand récit, qu'il faut d'abord prendre au sérieux, oui, mais ensuite on va voir, c'est pour ça qu'on a appelé cette partie, sur une idée d'Antonin Plarrier d'ailleurs, les méandres de l'impérialisme environnemental. Et on a voulu les redonner à voir, mais de manière très incarnée. Et pour être incarné, comme l'a montré très bien Elara Berthaud dans l'ouvrage sur Conakry, eh bien, faut être au plus près des hommes et des femmes, et donc au plus près des sources qu'elles ont produites, mais qu'il a fallu d'abord retrouver.
Et il me semble aussi que tous les deux, dans ces livres, vous menez aussi des réflexions importantes sur vos propres disciplines, donc notamment la littérature pour Elara Berthaud et l'histoire contemporaine pour Guillaume Blanc. Et vous essayez aussi de tisser des ponts justement entre littérature, tous les deux, entre littérature et histoire.
Alors là, je peux peut-être continuer parce que c'est Elara Berthaud qui aura plus à dire quand même que moi sur la littérature, puisque Elara Berthaud, même si moi je la qualifiais autant d'historienne que de littéraire, mais à elle de nous dire quelle est sa discipline. Effectivement, nous, donc, dans une moindre mesure, bien sûr, on a essayé, alors nous, de croiser histoire sociale, histoire environnementale et, comme vous l'avez dit, des approches géographiques, anthropologiques, etc. Mais oui, par exemple, nous, la littérature, et c'est là aussi un des points communs de nos travaux, je crois, avec Elara Berthaud, comment la littérature devient une source. Et pour nous, ça a été de voir, en fait, que la littérature, qui peut être un moyen d'inventer des mondes, eh bien, comment cette pensée va se trouver appliquée dans des scénarios très concrets. Là, on le doit à un des textes qu'on a traduit de Peder Anker, qui a fait un formidable ouvrage sur l'écologie impériale et la science britannique. Et en fait, on a retraduit son article sur l'invention d'une science dans les années 30, d'une branche de l'écologie scientifique, et c'est la New Human Ecology, la nouvelle écologie humaine. Donc là, c'est l'école d'Oxford. Donc on a des hommes comme Julian Huxley, qui sera le premier président de l'UNESCO, Edgar Worthington, qui sera l'un des pionniers de l'African Research Survey, presque la première plus grande enquête écologique du XXe siècle menée en Afrique, et de Max Nicholson, l'un des cofondateurs du WWF dans les années 60. Mais tous ces hommes, en fait, avant de devenir des experts internationaux, sont des administrateurs britanniques et aussi coloniaux. Et comment ils basent leur définition de l'écologie humaine ? Eh bien, par la littérature. Il s'appuie notamment sur H.G. Wells et son livre il y a The Brave New World, merci Elara, et The Shape of Things to Come. Et il imagine une économie de la nature qui ferait advenir une société équilibrée. Voilà sur quoi Edgar Worthington s'appuie quand il va faire des enquêtes auprès du lac Tanganyika et du lac Victoria, comment il imagine une gestion des poissons dans le lac Victoria et comment cette gestion des poissons donnerait une gestion du lac avec des espèces définies, leur nombre et leur quantité à pêcher ou non. Et il va faire la même chose pour les êtres humains. Telle société pourrait exploiter telle ressource en telle quantité. Et puis, il monte au niveau plus général sur la société, encore sur le gouvernement. Et il va dire que si la société était gérée comme un écosystème, on pourrait faire advenir quelque chose de stable, durable. Et que va faire Julian Huxley ? Exactement la même chose, sauf que Julian Huxley, c'est ce que montre Peder Anker, et bien il a un problème, c'est son frère. Parce que son frère, c'est Aldous Huxley. Et donc, grand littéraire, Le meilleur des mondes, publié en 1932. Et dans Le meilleur des mondes, qu'est-ce que montre Aldous Huxley ? En fait, il ridiculise son frère, Julian Huxley. Et il montre que l'idée d'une économie de la nature avec un gouvernement mondial formé par des scientifiques, ça serait de la dictature, et il ridiculise Julian Huxley. Et que publie Julian Huxley ? 2 ans après, alors que ça va être un des fondateurs de l'UNESCO et des politiques de la nature impériale, eh bien Julian Huxley publie un livre intitulé « If I were a dictator » et il définit dedans, point par point, ce que serait un gouvernement mondial basé sur l'écologie et mené par des scientifiques. et il jette les bases d'une organisation qui s'appellera d'abord l'Office international de documentation et de corrélation pour la protection de la nature. C'est l'UICN aujourd'hui, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et quand il dirige l'UNESCO en 1946, quel principe donne-t-il à l'UNESCO ? Une écologie humaine, c'est-à-dire la définition d'un gouvernement harmonieux des hommes par une définition et une gestion rationnelle de leurs écologies. Et tout cela vient de la littérature. Et on a d'autres exemples dans le livre, mais je laisse la place à Ella Raberto qui nous expliquera encore bien davantage voilà, ce que la littérature fait à l'histoire, je pense.
Merci, oui, effectivement, ma méthode est née de l'envie de dépasser ce qu'on appelle en France la littérature africaine, qui n'est qu'un tout petit corpus d'auteurs édités dans le quartier latin, dans des maisons d'édition, y compris Présence africaine dans le quartier latin ou Le Seuil ou Gallimard. Et donc ces textes-là, c'est comme s'ils étaient enlevés de leur territoire et des corpus avec lesquels ils discutent, de réseaux de journalistes, de réseaux intellectuels, de réseaux musicaux, d'intertextes sonores. Et donc l'idée, c'était de j'en mets quelques extraits en fin de chapitre, en regard, en décalage, en règle générale, avec tout un tas d'autres textes qui n'ont pas été édités dans le quartier latin et qu'on considère pas en France comme de la littérature africaine, à savoir la propagande d'État, on dit c'est pas intéressant, c'est didactique, le théâtre socialiste, il n'a pas un auteur assigné parce que c'était des pièces collectives, c'est didactique donc c'est pas intéressant, ou alors des textes qui ont circulé à bas bruit à Conakry parce qu'ils ont été auto-édités, parce qu'ils ont été portés par des petites maisons d'édition qui n'ont pas eu de retentissement en France. Or, on ne peut pas lire correctement Camara Lai, Tierno Monenembo, Marie Scondé, Amadou Kourouma, tous ces grands canoniques de la littérature africaine, sans les remettre en circulation avec des référents extrêmement précis d'auteurs intermédiaires, on pourrait dire, avec lesquels ils ont collaboré, discuté, parfois été en désaccord, et avec cette littérature d'État, parfois avec des références extrêmement précises. Marie Scondé se moque de Fodéba Keïta en train de monter les festivals culturels socialistes. Donc toute cette mécanique narrative que je monte dans le texte, et elle est renversée par Marie Scondé qui dit à quel point c'était épuisant pour elle de lire la prose de Sékou Touré. Donc il y a des jeux comme ça d'écho dans le texte entre la littérature africaine telle qu'elle est étudiée en France, telle qu'elle est labellisée en France, et des tas d'autres corpus qui nécessitent une enquête, qui nécessitent d'aller discuter avec des familles, d'ouvrir des malles, des boîtes d'archives et de discuter sur la conservation de ces textes. Or, tous ces textes appartiennent à une littérature africaine qu'il faudrait augmenter dans sa définition, en dehors des lieux de production de l'ancienne métropole. Donc, c'est ces textes-là que j'ai été amenée à collecter, discuter, numériser avec l'accord des familles. Je pense qu'ils peuvent servir à des littéraires, bien sûr, à une histoire de la littérature, mais plus globalement, à plein d'autres types de spécialistes. Et notamment, je suis certaine qu'on peut faire une histoire sociale ou une histoire intellectuelle ou une histoire culturelle à partir de tous ces textes, des pièces de théâtre. Il y a des centaines de pièces de théâtre qui ont été produites sur les 25 ans de Sékou Touré au pouvoir. Vous avez des pièces sur l'alphabétisation des femmes, les revanches des co-épouses grâce au cours d'alphabétisation du soir en langue nationale contre une première épouse alphabétisée en français, avec des rapports de jeux comme ça entre les co-épouses. Il y a des pièces sur la manière dont on se représente la résistance à la colonisation. Il y a toutes sortes de types de matériaux. Je suis convaincue que ces textes-là n'appartiennent pas à une seule discipline et peuvent effectivement être des sources et des matériaux de manière multidisciplinaire. En tout cas, c'est ce que ce livre entend faire. C'est pas seulement une histoire de Conakry pour faire une histoire de Conakry. C'est raconter comment des machines narratives permettent de raconter quand on se met à l'écoute d'un type de lieu, en l'occurrence Conakry, mais à la limite, peu importe. On ouvre comme ça les frontières disciplinaires et ça fait redéfinir des cartographies globales, y compris des cartographies disciplinaires.
Et c'est sur ça justement que je voudrais revenir. Donc ces jeux d'échelle que tous les deux vous proposez dans vos ouvrages, on voit vraiment comment les scènes locales redéfinissent des questionnements globaux et en même temps comment des scènes internationales vont impacter la vie des populations rurales dans les empires. Et donc j'aimerais bien vous écouter sur ces jeux d'échelle que vous mettez en place dans vos ouvrages et sur la manière aussi dont ces jeux d'échelle permettent de redéfinir des nouvelles cartographies des luttes.
Oui, alors effectivement, ce qui m'a vraiment fascinée dans Conakry, c'est la manière dont, dès 1958, ça a été un aimant à intellectuels et à artistes. Samben Ousmane vient, tout un tas de journalistes, d'écrivains du monde entier viennent se mettre au service de cette nouvelle utopie. Mais également, tout au long des années 60, et donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les archives de Stokely Carmichael, ancienne Black Panther, mouvement des droits civiques états-uniens, qui vient avec sa femme, la chanteuse Myriam Makeba, très engagée contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et ils se mettent, à partir de 68, à habiter de manière pérenne à Conakry, et ils redéfinissent des cartographies des luttes depuis Conakry. Et donc, notamment, Carmichael va se mettre au service de l'ancien leader ghanéen déchu, Kwame Nkrumah, pour monter un nouveau parti, l'All African People's Revolutionary Party, depuis Conakry. Et ce que va faire Carmichael, c'est qu'il va en faire un mouvement transatlantique avec un effet retour vers les États-Unis. Et là, quand on se met à regarder très intensément comment ces archives circulent entre elles, on voit que les mouvements intellectuels partent de Conakry vers les États-Unis. Donc, c'est une manière de renverser les manières habituelles de lire les circulations intellectuelles d'anciennes métropoles ou de métropoles impériales comme New York a pu l'être ou comme Paris a pu l'être. Et là, c'est Conakry qui va être au fondement d'un parti qui sera ensuite ultérieurement un parti des droits civiques états-uniens via Carmichael. Donc là, c'est un exemple très très concret au ras de ces archives conservées à Conakry, de manière transatlantique, se pensent des interconnexions de part et d'autre des océans. Il y a également d'autres types de circulation qu'on peut voir. Par exemple, dès 58 sont venus plusieurs intellectuels guadeloupéennes. Je pense à Maryse Condé, qui a raconté son engagement au service de ses couturiers dans La vie sans phare. Mais elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec sa sœur et elle est venue avec plusieurs groupes en fait, d'intellectuels qui vont devenir des institutrices, qui vont devenir enseignantes, qui vont devenir secrétaires pour les journaux en train de se monter. Et ces textes-là, donc, en l'occurrence qui sont conservés dans les archives de Djibril Tamsirnian, de ces femmes-là qui n'ont pas été publiées, sont en dialogue avec les textes de Maryse Condé pour raconter au quotidien ce qu'a pu être l'intimité de ces femmes qui ont la plupart du temps épousé des hommes politiques guinéens et qui ont ensuite subi la répression. Donc ces textes mêlent l'intime de la violence politique et en même temps des connexions beaucoup plus larges qui viennent ici en l'occurrence des Antilles.
Mais pour poursuivre là-dessus, je pense que c'est exactement, ce sont exactement les mêmes phénomènes en fait, que nous essayons d'étudier, de voir ce que l'Afrique fait au monde, ce que le monde fait à l'Afrique, mais de remettre ça dans cette fameuse histoire à parts égales. Et c'est vrai que nous, dans l'ouvrage, je pense, on peut le voir, si je reprends la même idée en entendant Ella Raberto, si on prend par exemple ce que le global, entre guillemets, enfin on va dire le mondial, fait au local. Là, c'est Karen Middleton qui, dans l'ouvrage, on a traduit un texte qui s'appelle l'ironie de l'histoire, l'ironie d'un transfert de plantes, et elle nous fait une histoire incroyable du figuier de Barbarie. Donc une plante cactée, pas un cactus, mais qui, certes, vient d'abord normalement d'Amérique latine, qui va passer par la France et qui arrive au XVIIIe siècle dans ce qui va devenir Madagascar, que les Français essayent de conquérir. Mais là, on est vers les années 1760, et c'est le comte de Modave et qui amène cette plante. Alors cette plante, elle a plusieurs avantages. C'est qu'elle pousse extrêmement vite et facilement, en plein désert, ou on va dire dans zone semi-aride. Et puis cette plante, non seulement elle donne de l'eau, Et puis, si on la brûle, etc., elle peut aussi fournir même de la nourriture, en tout cas pour le bétail, etc. Et puis, les Français essayent de conquérir Madagascar. Ils échouent. Mais ils vont revenir, allez, on va dire, un siècle après. Et sauf qu'un siècle après, eux qui pensaient que le cactus, enfin, que le figuier de Barbarie allait devenir leur allié, bien, un siècle après, ils se retrouvent devant quoi ? Devant des frontières, des barrières naturelles de figuiers de Barbarie, dispersées par les populations. Ils se retrouvent devant des populations qui se sont conquises entre différents clans, et le signe, le marqueur de la conquête, c'était également ce figuier de Barbarie. Devant des populations qui ont dynamisé du commerce avec des sociétés de l'autre côté de l'océan Indien, justement parce qu'ils ont pu exporter du bétail en le nourrissant sur des distances bien plus longues grâce au figuier de Barbarie. Et donc, en fait, la France, qui croyait faire d'un transfert de plantes son allié pour une conquête, se retrouve confrontée à des populations qui, finalement, bien sûr, n'ont pas pu non plus contrôler l'invasion que représente ce figuier de Barbarie, mais qui ont su faire avec une contrainte environnementale ou un bouleversement colonial et environnemental pour, justement, s'adapter. Et puis, donc voilà ce que le monde, on va dire, fait au local, mais ce que le local, en réponse, fait au monde. Et là, il y a d'autres exemples. Je donne un seul. C'est Jayeta Sharma qui nous explique cette histoire, qui est vraiment là aussi sur l'histoire des jardins à thé de l'Assam. On est dans le nord de l'Inde, les Britanniques, et puis une compagnie britannique qui veut exploiter l'Assam et en faire une plantation immense pour les théiers, mais pour la consommation en Angleterre et en Europe. Mais bien sûr, dans l'esprit britannique, ces théiers, en aucun cas, ne peuvent être indiens. Pour les palais aiguisés, ou on va dire les bons goûts des Britanniques, le thé ne peut être que chinois. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont importer des théiers de Chine. Ils vont, je les cite eux, comme Jayeta Sharma le dit, importer des ouvriers chinois spécialisés dans la culture du thé. Et ils vont essayer de faire de l'Assam bien un jardin à thé, mais avec du thé chinois. Bien, c'est l'échec. C'est l'échec total, parce qu'en fait, les théiers chinois ne sont pas adaptés à cet environnement-là. Et il va leur falloir 20 à 30 ans pour réaliser, un, qu'en fait, en Assam, le thé est endémique et donc indien, et que deux, les ouvriers indiens ont justement leur savoir, leur savoir-faire, et bien finalement, même s'ils ne le voulaient pas, eh bien les Britanniques vont devoir exporter du thé indien et s'appuyer sur des élites indiennes et des ouvriers indiens. Et donc là, on voit... alors oui, on peut étudier Conakry, pas justement pour étudier Conakry, mais d'autres mouvements. On peut étudier le thé ou le cactus, mais qu'est-ce qu'on relie ? C'est qu'à l'époque coloniale, comme à l'époque postcoloniale, eh bien finalement, les sociétés colonisées ou postcoloniales, oui, le monde leur a fait beaucoup, mais elles ont également beaucoup fait au monde. Et oui, on doit toujours regarder ces connexions. Mais qu'est-ce que ça devient vraiment intéressant et passionnant quand on voit comment le monde se joue à chaque échelle locale? Et là, ça nous donne une histoire bien plus sensible et bien plus intéressante.
Et un autre élément que je trouve transversal aux deux ouvrages, c'est l'intérêt que vous portez pour justement des moments des conflictualités, des révoltes, d'insurrection. Et justement, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que ce moment des révoltes, d'insurrection font au récit ?
Alors, je commence, ce qui nous permettra d'avoir, à mon avis, le pendu d'Elara Berto, qui est vraiment magnifique dans cet ouvrage. Nous en avons déjà discuté avec Elara Berto, mais c'est vrai que c'est un passage tellement fantastique sur votre question. Oui, les insurrections, alors c'est toujours, alors là, c'est toute notre formation, je pense, commune, tous les trois, hein, finalement. En études dites africaines, bien sûr, prendre la domination coloniale au sérieux, ne pas fantasmer une capacité d'action qui serait toujours incroyable, démesurée. Non, parce que l'entreprise coloniale reste une entreprise de déshumanisation. Mais du moins, la tentative. Et il y a bien sûr déshumanisation. Mais la capacité d'action qui va se mesurer ça comme l'écrit un collègue Vincent Boléno, qui va se mesurer à l'aune du pouvoir colonial, eh bien là, on peut la lire, nous, avec l'environnement, dans toute sa dimension. Des révoltes qui peuvent sembler basiques. Là, c'est par exemple Bernard Gissibel sur la première grande révolte sociale dans l'Afrique orientale allemande. Et il nous montre comment en 1904-1905, oui, il y a eu une grande révolte sociale. Et cette révolte est liée à la légende donc, dont on parlait au tout début de Mangula, donc cet éléphant qui a été chassé par un administrateur colonial, Van Hassel, rebaptisé Mangula. Et pourquoi, en fait, Van Hassel, nous explique notre collègue historien Bernard Gissibel, pourquoi cette légende sur les éléphants et les Allemands qui devraient tuer les éléphants? Parce qu'en fait, la révolte dont on parle n'est pas une révolte sociale à la base, c'est une révolte pour le contrôle de l'ivoire. Les Allemands ont voulu monopoliser la chasse et le trafic de l'ivoire, d'abord en s'appuyant sur des chasseurs locaux qui connaissent le terrain, les pratiques de chasse, etc. Mais une fois, avec 65 000 éléphants abattus chaque année, une fois que les éléphants sont quasiment en voie d'extinction, les Allemands veulent monopoliser pour eux le trafic d'ivoire. Et donc, ils vont se passer de leurs intermédiaires est-africains. Intermédiaires qui ne vont pas se laisser faire. Et donc, qui on va retrouver à la tête de la révolte en 1905 ? Des grands chasseurs d'éléphants. Mais qui va les soutenir ? Toutes les populations rurales, puisque comme les Allemands ont mis en place des réserves de chasse pour monopoliser l'ivoire, mais ils ont aussi interdit aux habitants de chasser. Mais qu'est-ce que ça fait de l'interdiction du droit de chasse quand on n'a plus le droit de chasser un lion ? Eh bien, ça fait qu'on a une invasion, par exemple, de porcs sauvages, puisque les lions étaient abattus pour ne pas avoir des porcs sauvages qui massacrent les récoltes. Mais quand les lions ne sont plus abattus et que les porcs sauvages pullulent et ruinent les récoltes, eh bien les paysans perdent eux aussi leur accès à leurs ressources. Et donc ils se joignent aux chasseurs d'éléphants. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Qu'une révolte qui semblerait anodine, oh bon, des droits de chasse. Non, on a une révolte socio-environnementale qui en fait en 2 ans devient la plus grande révolte auquel les Allemands auront à faire. Et on peut partir 50 ans plus tard au Vietnam. Là, c'est notre collègue Michitake Asso qui nous raconte la guerre du caoutchouc. Oui, les Français, pendant la guerre du Vietnam, ont fait du caoutchouc leur arme massive pour la production du latex et pour financer la répression. Et le caoutchouc, du coup, était la hantise du Viet Minh et vraiment le signe de la domination coloniale. Il fallait brûler les plantations d'EVA. Mais plus le Viet Minh s'est mis à infiltrer les plantations, plus en fait le Viet Minh s'est approprié le caoutchouc comme symbole de la lutte, de la domination coloniale, mais de la lutte. Et lorsque le Viet Minh gagne, eh bien, le caoutchouc va devenir aussi le symbole national du Vietnam. Donc, un instrument de la domination et de l'horreur coloniale va devenir un instrument du récit national vietnamien à l'époque postcoloniale. Et donc, ces moments d'insurrection nous donnent, c'est un peu la pointe immergée de l'iceberg, mais nous donnent à lire toute la violence de l'Empire, mais aussi toute la réaction de colonisés qui, s'ils devaient composer avec l'ordre colonial, ont toujours contesté, négocié et parfois vraiment renversé l'ordre colonial, ce qui va se retrouver dans l'époque postcoloniale, comme le montre si justement Elara Berto.
Merci pour la balle. Je l'attrape. Il y a plusieurs manières de répondre à votre question. Déjà, moi, je travaille sur le post-colonial. Donc, la mécanique de subversion est légèrement différente, mais on peut le lire à plusieurs niveaux. Le premier, c'est de montrer comment toute la politique culturelle de Sékou Touré s'est construite contre une hégémonie coloniale antérieure. Et donc, effectivement, l'impératif, c'est décoloniser l'histoire, décoloniser la culture. Djibril Tamsirnian aura une très belle expression. Il dira « défalsifier ». L'histoire par des productions culturelles. Donc, toute cette production culturelle de Sékou Touré est à relire sous cet angle-là. Il faut déjà combattre une machine narrative qui a imprégné les corps et les esprits, qui est le grand spectre colonial qui a envahi les âmes. Donc déjà, Sékou Touré est dans une politique de des subversions, en quelque sorte. Ensuite, le Parti démocratique de Guinée est bien évidemment, dans ses 25 ans, et en réalité assez vite, devenu lui-même hégémonique. Avec la construction d'un récit national centré sur des grandes figures qui avaient été choisies, Alpha Yaya Diallo, Samori Touré et d'autres. Et au moment où des subversions, des colères politiques se sont exprimées, elles se sont parfois exprimées via la scène pour attaquer le régime du Parti démocratique de Guinée, mais on était dans un régime autoritaire, donc bien évidemment, il ne s'agissait pas de manifestations frontales. Mais on m'a raconté, en croisant plusieurs sources orales et puis certaines sources écrites que j'ai pu consulter, que, par exemple, un soir, sur scène, dans une des pièces qui raconte l'histoire justement de ce résistant à la colonisation dont je parlais tout à l'heure, Samori Touré, à un moment donné, un acteur a trop bien joué le traître. Et ce faisant, il a renversé la salle temporairement, contre ses couturiers, qui s'est mis à applaudir à tout rompre un discours promouvant l'ouverture commerciale et la fin de l'isolationnisme monétaire, en réalité, qui avait imposé ses couturiers, notamment à Cancan, la grande ville commerciale vers le Mali. Et donc là, c'est une subversion effectivement extrêmement ténue, qui ne dit pas grand-chose d'une opposition qui aurait pu se faire de manière politique. Mais ça raconte des colères politiques au ras du sol, et ça raconte comment un régime autoritaire n'est jamais hyper efficace à tous les degrés de la société. Il y a des marges de subversion, des soupapes, comme par exemple trop bien jouer un traître un soir, ou au contraire, inversement, dans la salle, trop applaudir au mauvais moment. Et donc ça, on peut le voir dans les récits qui nous sont racontés aujourd'hui, dans les mémoires qui sont encore très vives de cette soirée. On peut le voir également, et c'est la dernière partie de ma réponse à ça, dans certains textes fragmentaires ou en partie décevants à première vue qui ont été conservés chez les familles. En l'occurrence, une Fatima dont j'ai retrouvé plusieurs corpus de textes, avait écrit énormément de poésie amoureuse qui, moi, de prime abord, ne m'intéressait pas spécialement. Or, au milieu de cette écriture qui n'a jamais été publiée, qui n'a jamais passé les filtres de la censure, qui a été écrite par de Versoix sur le vif au moment de ces nuits d'insomnie où, semble-t-il, écrire lui faisait du bien, à ce moment-là, un poème en particulier surgit qui raconte au quotidien ce que les pendaisons publiques de 1971 ont pu représenter pour elle. En 1970, la Guinée a subi une attaque de la part du Portugal et de la Guinée-Bissau, qui est connue comme l'opération Mar Verde. Et dans la foulée, Sékou Touré met en place une des pires répressions du régime, avec des emprisonnements extrêmement massifs, et fait pendre plusieurs opposants politiques dans ce qui est aujourd'hui connu comme le pont des pendus à Conakry. Mais il y avait également eu des pendaisons publiques dans plusieurs régions de Guinée. Et on a emmené les enfants dans les écoles voir les pendaisons pour bien montrer la répression politique qui s'abattait contre les opposants au régime. Et donc tout cela, je le savais. Ça fait partie de l'histoire collective. En revanche, ce que cette émotion individuelle avait pu représenter, ça, je ne le savais pas. Et c'est ce texte qui a surgi d'une littérature a priori purement amoureuse, extrêmement intime. Donc je propose d'en lire un petit passage parce qu'il me semble extrêmement important sur ces types de littérature en apparence pauvre et en réalité, moi, je trouve extrêmement riche, non seulement pour les historiens et pour les littéraires et a priori, peu importe la discipline. À l'inconnu pendu au terrain de basket en 1971, donc le poème est daté. Le pendu. Le pendu au panneau de basket qui flottait ample au vent, calme, hautain et plein de mépris. Le pendu au visage blême, barbe bleue, qu'on avait trouvé en l'air le matin, en conversation suspendue avec Dieu, à qui il contait les malheurs des humains. Le pendu dont les gens effrayés s'écartaient, que l'on désignait d'un doigt tremblant. Le pendu revient parfois le soir, fait trembler le panneau et les filets de basket selon son humeur, fait pencher la victoire. Le pendu qui rit d'un rire sardonique ou qui pleure comme ulule le vent certains soirs. Celui qu'on avait pendu pour rien, comme il a dû rire le jour de la résurrection. Et donc, à aucun moment dans le reste de sa poésie, on ne sent de révolte particulière contre le régime. Or là, le pendu qu'on a pendu pour rien, il semble extrêmement clair que pour la plupart des spectateurs de ces pendaisons publiques, ces pendaisons étaient des actes de répression politique qui se fondaient sur du vent et sur une manière de garder le contrôle sur la société. Et donc ce type de poème, au ras du sol, littéralement, ces poèmes n'ont jamais été publiés, permettent de raconter non seulement les émotions de la violence politique sur le vif, mais également un certain type de défiance généralisée de la population en 1971, que par ailleurs, j'aurais pas pu documenter.
Hélène Roberto, Guillaume Blanc, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à la librairie Mola de Bordeaux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.